France Musique.
Notre émission va commencer dans quelques instants.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation, Florian Royer. Quatrième épisode, la mort du swing.
Très très bon chef d'orchestre et tromboniste. Et ça évoque pour moi un souvenir de guerre, figurez-vous, parce que j'étais blessé, j'étais dans l'armée de l'Âtre et je suis arrivé en convalescence à Paris. Et voilà que j'apprends que l'orchestre de Glenn Miller, mais hélas sans Glenn Miller, joue à l'Olympia. Je suis allé à l'Olympia avec mon ami Maurice Mouflard, un excellent trompettiste, et nous avons emmené le professeur de trompette du conservatoire, le maître, comme on l'appelle, Eugène Fauveau. Cet orchestre était extraordinaire, il y avait une ambiance absolument de folie dans la salle, et je me souviens que c'était la première fois où j'ai vu des types de la police militaire américaine absolument sous. Il y en a un qui m'a entonné de force un goulot d'une bouteille de whisky dans la bouche et qui m'a dit « Hey, bois, Frenchie, allez, bois !» Et l'orchestre était sensationnel. Et nous avons demandé à Eugène Fauveau, qui était alors professeur de trompette au conservatoire, ce qu'il en pensait. Il a dit, parce qu'il avait l'accent légèrement de Dijon, il a dit « Ces garçons ont une nature superbe, mais je craindrais qu'ils fassent claquer quelque chose là-dedans tellement ils soufflent. »
Début 1945, l'orchestre de Glenn Miller se produit à l'Olympia. Mais sans Glenn Miller, disparu quelques semaines auparavant dans un accident d'avion. C'est depuis cette salle parisienne que l'orchestre diffuse ses programmes de radio. Les Français n'avaient pas vu de big band américain depuis avril 1939 et la venue de Duke Ellington. En février, les musiciens américains visent encore plus haut que l'Olympia et vont jouer à l'Opéra. La prestation fait l'objet d'un article dans la presse.
Ce concert a été utile et tout d'abord, il faut rendre hommage à tout ce beau travail. Ici, tout le monde joue juste et en mesure, tout le monde connaît le solfège. C'est une belle et dure leçon pour la plupart des petits musiciens zazou d'Europe. Jean Vienneur, journal Ce Soir, mars 1945.
Les musiciens de Glenn Miller font danser tout Paris et même au-delà de la capitale puisqu'ils vont se faire entendre à Nice en avril. Impossible donc de ne pas organiser une rencontre entre les stars américaines et la vedette du jazz français, Django Reinhardt. En janvier 1945, les meilleurs solistes de Glenn Miller enregistrent avec le roi de la guitare, mais dans le plus grand secret. Car les musiciens américains restent des militaires et ils n'ont pas le droit de toucher un cachet en plus de leur solde. Quant à Reinhardt, lui, il est sous contrat avec la marque Swing, donc tout le monde est hors la loi. Les disques paraissent sous l'appellation fantaisiste Jazz Club Mystery Hot Band.
Thank you.
La libération complète de la France est loin d'être achevée. Des poches nazies, il en reste encore, à La Rochelle, à Saint-Nazaire, à Dunkerque, à Lorient. À l'image de Charles Delaunay, le grand promoteur du jazz qui avait appartenu à un réseau de résistance, de nombreux Français perdent de la famille et des amis. Anne Legrand, historienne et musicologue.
C'est teinté quand même de tristes nouvelles. Donc il va apprendre l'exécution des agents anglais en 44-45 et puis la mort des sœurs Tambour qui seront gazées en 44.
Charles Delaunay s'était retiré à Gambay après sa sortie des geôles allemandes. Il n'est pas inquiété à la libération. D'ailleurs, l'épuration des milieux artistiques ne vise quasiment aucun musicien de jazz. Raymond Legrand, pour son travail régulier à Radio Paris, est frappé d'indignité nationale. Et durant 10 mois, il ne peut plus se produire sur scène, ni à la radio, ni au disque. Pour son violoniste vedette, Michel Varlop, une peine symbolique. 2 mois d'interdiction d'activité professionnelle à Paris et 3 jours d'indignité nationale. Mais miné par l'alcoolisme et par la rancœur, la carrière de Varlop plonge et il meurt 2 ans après la libération. Django Reinhardt, pourtant très actif sous l'occupation, lui n'aura aucun problème avec l'épuration, peut-être protégé par son refus de jouer en Allemagne. Delaunay redémarre peu à peu les activités du Yacht Club de France et surtout, il parvient enfin à se procurer les dernières nouveautés américaines. Le critique de jazz Nicolas Beignès.
Charles Delaunay est très sensible aux évolutions du jazz. Alors il va être l'un des premiers à faire entendre en France la nouveauté du bebop, la nouveauté de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie, évidemment. Et il va diffuser au siège de Jazzot toute cette musique. Tous les jeunes musiciens français de cette époque vont arriver au siège de Jazzot pour écouter cette nouvelle musique.
Nous ignorons la plupart des derniers airs américains. Est-ce que Jerry Mango pourrait en jouer
Certainement,
pour les auditeurs de la radiodiffusion française?
Certainement, depuis quelques mois, nous avons eu l'occasion de recevoir les dernières musiques américaines que les soldats américains nous ont transmises, vocalement d'ailleurs.
Eh bien alors, nous passons la parole à Jerry Mango. Pouvez-vous nous dire, M. Delaunay, quel air va nous jouer maintenant l'orchestre de Jerry Mango?
C'est Soussou Baby, qui est un des derniers succès américains.
Il va falloir un peu de temps aux musiciens français pour assimiler le bebop. Pour l'instant, le répertoire des formations françaises est composé de morceaux d'avant-guerre ou sortis durant l'occupation mais encore non diffusés en France. Comme ce titre de l'américain Louis Jordan, interprété par l'orchestre de Jean Faustin durant la première moitié de 1945. Dans l'ébullition de 1945, avec la réouverture des établissements de spectacle et des studios, de nombreux jeunes musiciens se font une place. Maurice Mouflard, Christian Belleste, Pierre Séverin-Louineau, Camille Sauvage, ils jouaient déjà tous sous l'occupation dans différents orchestres. À la Libération, cette génération s'émancipe, monte ses propres formations et se constitue un répertoire de titres qui, pour la majorité, n'étaient pas joués sous l'occupation. Mais ça reste de la musique de danse. Nicolas Beignès.
Ce qui se passe, c'est que débarque une musique ancienne qui va devenir emblématique de ce qu'est la Libération. C'est assez curieux et je pense qu'elle devient emblématique, cette musique, parce qu'on danse. Et ce qui est interdit pendant toute la période de l'occupation, c'est de danser. Swing dancing verboten, il était interdit de danser à ce moment-là. Et donc, quand on retrouve les bals populaires, on danse en même temps au son de l'accordéon, bien sûr, c'est évident, mais on danse aussi au son de Glenn Miller. Et je crois que c'est ça qui organise, d'une certaine façon, le souvenir.
Philippe Gimplovitch, historien et musicologue.
La révolution musicale profonde, la transformation du jazz en musique, alors pour le coup, en musique de concert, en musique savante, les Français passent à côté. Passe à côté parce qu'il n'y a pas de disque, il n'y a pas de musicien américain, il n'y a personne pour la porter.
Cependant, il y en a un qui ne passe pas à côté des évolutions, Eddie Barclay. Déjà pianiste, gérant de diverses boîtes, organisateur de séances d'enregistrement, il manquait à son attirail la carte de propriétaire de label. Et il s'engouffre dans la brèche de la Libération, alors que les compagnies de disques reprennent tant bien que mal leurs activités. Il baptise sa première marque Blue Star, et en quelques années, Barclay se retrouvera à la tête d'un véritable consortium du disque.
Je vais vous dire ce qui m'a décidé à vouloir monter cette compagnie de disques. Après avoir passé de nombreuses soirées à écouter des disques avec mes amis, comme je vous dis, Django, Reinhardt, et Grappelli, et Combel, etc., on a vu à ce moment-là la production française qui était vraiment assez mal faite.
Pratiquement inexistante.
Inexistante, mais assez mal faite et assez mal enregistrée. En toute honnêteté, je me suis dit, vraiment, on peut faire comme production, on peut faire de bien meilleures choses que ce qui existe sur le marché à l'heure actuelle. Dès le début de mon métier, je savais comment faire une prise de son. Vous comprenez,
c'était un enregistrement,
vraiment ce qui avait de plus important, puisque apparemment, les autres ne savaient pas très bien le faire. Sauf certaines compagnies étrangères qui, elles, commençaient vraiment à très bien enregistrer. J'ai demandé à mes petits camarades musiciens de bien vouloir venir enregistrer dans un studio que j'avais loué avec beaucoup de mal, puisque je suis parti dans la vie, comme je vous l'ai dit une fois, avec 50 000 francs, mais vraiment 50 000 francs, vrai, sans prêt, sans rien. Et mes amis musiciens m'ont très gentiment dit, bien écoute, Barclay, c'est ta première séance de disque, on veut que ça soit un souvenir pour toi. Et ils sont venus enregistrer pour rien, je les ai d'ailleurs payés après, ce qui était bien normal. Enfin, ils sont venus enregistrer deux séances.
Oui, c'est une affaire de copains.
Une affaire de copains, exactement. Et puis, il fallait trouver l'usine de pressage. J'ai donc été trouver la maison Pathé Marconi, qui d'ailleurs très gentiment m'a offert de presser les premiers disques, m'a donné un petit contingent, puisque vous savez que c'était réglementé à l'époque.
Oui, il n'y avait pas de matière première, c'était tout de suite après la Libération.
Exactement. Et puis nous avons commencé à développer nos disques, à les presser et à les mettre en vente, c'est-à-dire qu'au catalogue, il y avait très exactement deux disques.
Thank you.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation, Florian Royer.
Ce que Barclay a oublié de dire, c'est qu'au début, son répertoire n'est pas non plus très novateur. Mais les Américains stationnés en Europe se complaisent à diffuser une musique qui n'est pas caractéristique de la nouveauté qui voit le jour outre-Atlantique. Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, Max Roach restent pour l'instant des marginaux qui enregistrent pour des petits labels. Ce que l'armée américaine joue en France avec ses musiciens via sa radio, l'American Forces Network, ce n'est pas du tout représentatif. Les vieux standards ou les bluettes de Sinatra, voilà ce qui passe sur les ondes françaises, même sur la RDF, le nouveau média public. Le 10 mai 1945, l'émission Ce soir en France annonce la libération totale du territoire métropolitain.
Ici Paris, radiodiffusion française.
Ce soir en France.
Et à la fin du programme, une voix s'élève, une voix désormais connue par les auditeurs français, celle du speaker américain francophone Bravig Hinds.
Après cela, je vais vous faire entendre un de nos jeunes chanteurs les plus célèbres, Frank Sinatra. C'est ce que vous appelez un chanteur de charme. Il a une popularité monstre parmi les Américaines, surtout auprès des très jeunes. Dernièrement, Frank Sinatra chantait dans un grand théâtre en Amérique, et pour être certain d'avoir des places, une foule de ses très jeunes admiratrices avait commencé à faire la queue dès 4 heures du matin. La police survint et conduisit ces jeunes filles au poste, les accusant d'encombrer la voie publique à une heure trop tardive. Frank Sinatra intervint en leur faveur, protestant qu'il n'était pas là trop tard, mais trop tôt. Non pas pour faire scandale, mais pour l'amour de l'art et les choses en restèrent là. Frank Sinatra chante pour vous « There are such things ». Il y a de ces choses.
Darling, you're my guiding star. Not caring what you own, but just what you are. A peaceful sky.
Thank you.
Avec un autre speaker, Sim Coppens, Bravig Hymns fait partie des Américains arrivés sous l'uniforme des GIs et qui s'adressent aux Français via la radio, dans leur langue et depuis le sol français. Car pour l'armée américaine, il faut dénazifier la France et l'Europe, non seulement par les armes, mais aussi par la culture. Et c'est ce que s'emploient à faire Sim Coppens, Bravig Hymns ou encore l'orchestre de Glenn Miller. L'idée, c'est d'enraciner la culture américaine, mais pas vraiment de transmettre les nouveautés qui ne passent pas par ces canaux. C'est par les disques que les fans de jazz de l'Hexagone découvrent les innovations musicales. Le titre Coco, un des plus célèbres des débuts du bebop, est enregistré à New York fin 45, donc Delaunay doit l'avoir entre les mains début 46, et il le fait écouter à ceux qui passent au siège du Hot Club de France. Outre Delaunay, d'autres fans de jazz se penchent sur le bebop naissant. Mais Hugues Panassier, le président du Hot Club de France, ne goûte pas du tout cette nouvelle musique. Entre lui et Delaunay, le torchon brûle, et bientôt, ce sera un schisme. Philippe Gimplovitch.
En 45 ou 46, André Oder, qui fait partie des jeunes musiciens, lui aussi, il a été un disciple d'Hugues Panassier, reçoit des disques, un disque en particulier de Dizzy Gillespie, avec Charlie Parker, Otarus. Et il le chronique dans Jazzot. Et pour le pape, c'est l'hérésie. Pour le pape Panassier, c'est le diable qui entre dans le beffroi, comme disait Oder. C'est-à-dire le diable qui entre dans le beffroi. Le beffroi, c'est la sacristie de la vraie musique, la musique des Noirs, la musique authentique de la Nouvelle-Orléans, je mets des guillemets à tout ça, et le diable, c'est la modernité.
Anne Legrand, historienne et musicologue.
Panassier sent bien que c'est Delaunay qui est mis en avant dans différents articles, etc., et qu'on parle du Hot Club de Paris, qu'on parle peu des Hot Clubs de province, en tout cas, que ça devient lui le chef, le président du Hot Club, alors qu'il n'est pas président du Hot Club de France. Et qu'il a la main mise aussi sur les enregistrements, qu'il va aux États-Unis en 1946, Charles Delaunay, il y va pour sauver le label swing, parce qu'il a du mal à avoir des matières premières et à organiser des enregistrements. Donc il part aux États-Unis et enregistre les musiciens américains là-bas. Il se tient au courant de ce qui est devenu le jazz là-bas, aux États-Unis, et d'un nouveau courant qui apparaît, qui s'appelle le bebop. Et Panassier n'est pas au courant. Il va aller aux États-Unis en 1949. La scission arrive très vite, finalement. Charles Delaunay sera évincé du Hot Club de France.
Le fameux titre Hot House, avec Charlie Parker et Dizzy Gillespie, dont la chronique va faire bondir Panassier. L'orchestre de Glenn Miller a quitté la France en août 1945 pour regagner ses pénates. Mais une autre formation américaine, l'Air Transport Command, se trouve toujours en France. Et ses membres demandent à jouer avec Django Reinhardt. Le guitariste virtuose l'ignore, mais il est très célèbre outre-Atlantique. Voilà une nouvelle qui flatte son ego. Cela faisait des années que Django caressait un rêve américain. Depuis que Duke Ellington l'avait écouté jouer à Paris. Cela remontait à 1939, rappelle le musicologue Philippe Baudouin.
Django, lui, il a tout de suite vu le grand Duke Ellington, me sourit, aime ce que je fais. Donc, je il pourrait presque lui demander de m'engager en Amérique. Il a tout de suite eu cette idée-là. Ça lui a couru dans la tête, donc ça a mis 7 ans pour se réaliser.
En attendant de partir au pays des gratte-ciel, Django est l'invité d'honneur de l'Air Transport Command sur les ondes de la radio militaire américaine basée en France. Le speaker ne tarit pas d'éloges et il le compare aux jazzmen américains Bix Beiderbecke et Pinetop Smith, deux musiciens morts des années auparavant dans des conditions tragiques. Mais ça, Django ne l'a peut-être pas relevé.
AFN presents the European Division Band of the Air Transport Command, starring Django Reinhardt. From Paris, it's the music of the European Division Band of the Air Transport Command, directed by Sergeant Jack Platt with PFC Bill Reynolds. Tonight, as our special guest, we have the world's greatest guitar virtuoso, Django Reinhardt. To the serious student of jazz, the name of Django Reinhardt has become as well known and as legendary as Bix Beiderbecke or Pinetop Smith. Django's style and rhythm is known from the plush swing salons of New York's 52nd Street to the sidewalk cafes of Montmartre. It's an honor and a privilege to play host to him today. It's the ATC band with Django's own Djangology.
En décembre 1945, Django se produit salle Pleyel avec les musiciens de l'Air Transport Command. Le concert est diffusé simultanément à la radiodiffusion française, à la BBC et sur l'American Forces Network, le réseau de radio militaire américain. Début 1946, Django retrouve son vieux comparse, Stéphane Grappelli, qu'il avait précipitamment quitté alors que la guerre était imminente. Grappelli avait passé toute l'occupation en Grande-Bretagne. Le guitariste traverse la Manche pour rendre visite au violoniste. Charles Delaunay fait partie du voyage, avec derrière la tête l'idée de reformer le noyau du quintet du Yacht Club de France, qui avait eu tant de succès avant 1939. Et à peine les deux musiciens réunis... Mais le rêve américain démange de plus en plus Django. Et après discussion avec Duke Ellington, le voilà qui s'embarque le 29 octobre 1946, direction New York, pour participer à une tournée avec le célèbre orchestre. C'est le début d'une aventure dont il reviendra déçu. Et alors que Django quitte l'Europe, un jazzman américain lui fait le chemin inverse. C'est Don Redman qui forme le premier orchestre noir à se rendre sur le vieux continent après la guerre pour une longue tournée. Don Redman, c'est un chef de big band déjà vétéran dans le métier depuis plus de 25 ans. Saxophoniste, arrangeur à la voix très reconnaissable qui parle plus qu'il ne chante. Après s'être produit dans plusieurs pays européens, l'orchestre de Redman arrive à Paris en décembre 1946. Dans le journal Combat, Boris Vian l'annonce. Pour la première fois depuis la guerre, un orchestre noir américain va jouer à Paris. En vérité, cette tournée si mal préparée est un fiasco. Les musiciens font face à des problèmes de transport. Certains trouvent aussi des engagements de leur côté quand d'autres retournent aux États-Unis plus tôt que prévu.
Qu'allait nous apporter Don Redman et son orchestre ? C'est la question que se posait tout un chacun en pénétrant dans l'immense salle Pleyel. De vastes arrangements lunsfordiens, des riffs à la Basie, un climat ellingtonien ou la musique ultra-moderne, le bebop des Parker et autres Gillespie. Beaucoup furent déçus en apprenant qu'une partie de l'orchestre était rentrée aux USA et que Don Redman ne serait entouré que de 6 musiciens, dont un Français. Revue Jazz Hot, janvier 1947.
France Musique, le jazz en France sous l'occupation. Florian Royer.
Lors de ce concert parisien, Charles Delaunay, qui est privé de son poulain Django, est impressionné par Don Byas, le saxophoniste, auquel il propose de venir enregistrer pour Swing. Et Byas accepte. Don Byas est le parfait trait d'union entre le jazz d'avant et le bebop. Et Delaunay le fait travailler, hein, en grande formation, en quartet, en soliste avec section rythmique. Pour l'accompagner, il fait appel à d'autres musiciens de chez Redman. Le pianiste Billy Taylor, le tromboniste Terry Glenn ou le trompettiste Peanuts Holland. Don Byas se fait aussi draguer par Barclay et son label Blue Star. Et l'Américain dit oui à tout. Début 47, il enregistre Billy's Bounce, composition de Charlie Parker. Ce sont sûrement les premiers titres de bebop joués et enregistrés en France. Thank you. Difficile de savoir si ces titres nouveaux furent interprétés en public lors des concerts de fin 1946. Après la France, l'orchestre Redman tourne dans d'autres pays européens et les musiciens continuent à cachetonner à la radio ou dans des séances d'enregistrement. Puis la formation rentre aux États-Unis après 7 mois de voyage, enfin la formation ou ce qu'il en reste, deux de ses membres, Peanuts Holland et Don Byas, s'établissent en Europe où ils passeront le reste de leur vie. Le nouveau son américain est donc joué live pour la première fois en Europe avec le retour du premier grand orchestre noir fin 1946. Et les musiciens français commencent à assimiler cette musique, à l'image d'Hubert Rostin qui n'est plus le timide clarinettiste de 1940 engagé par Reinhardt. En février 1948, Dizzy Gillespie fait un carton à Pleyel. Et les fans de jazz se divisent entre ceux qui s'enflamment pour le bebop et ceux qui le rejettent. Ceux qui se rangent derrière Charles Delaunay et les autres derrière Hugues Panassier. En tout cas, cette mode ne laisse personne insensible.
Depuis qu'on parle du bebop, tout le monde est bebop, naturellement. Mais malgré tout ce qu'on peut dire, bien rares sont ceux qui peuvent définir cette musique lorsqu'on leur demande à brûle-pourpoint. En quoi le bebop diffère-t-il du jazz tel qu'on l'a pratiqué jusqu'ici ? J'ai moi-même tenté quelques vagues commentaires il y a plusieurs mois, mais je m'étais surtout borné à reproduire l'avis des critiques que je considère comme autorisés, car les discussions de pure technique ne sont pas de mon ressort. Boris Vian, Revue Combat, juin 1948.
Si plusieurs musiciens français s'essaient au bebop, la plupart conservent tout de même un pied dans la musique de danse, pour plaire un peu à tout le monde. Et déjà, un effacement mémoriel se met en place, comme si le jazz de l'occupation n'avait pas existé.
L'explosion de février 1948 dont je parlais de Dizzy Gillespie a joué aussi un rôle dans l'oubli de tout ce qui s'est fait pendant la période de l'occupation. Toute la jeune génération ne voulait pas se souvenir de ce qui s'était passé évidemment avant. Et donc, elle se jette à corps perdu dans le bebop, parce que c'est ça, la nouvelle musique, c'est ça, c'est la musique révolutionnaire, c'est celle de la jeunesse, donc elle ne veut pas entendre parler du reste, et ça obscurcit encore plus ce qui s'était passé durant l'occupation.
Les musiciens de l'occupation n'ont pas leur nom au firmament du jazz. ceux qui sont restés dans les mémoires le sont pour d'autres raisons ou une autre période de leur carrière. Aimé Barelli, Hubert Rostin, Jerry Mengo, Alix Combel sont aujourd'hui connus pour ce qu'ils ont produit après 1945. Sauf, une fois de plus, Django Reinhardt, qui bénéficie d'un régime spécial.
Et on a occulté toutes ces compositions, parce que Django, évidemment, on garde son nom, mais ces compositions de la période de l'occupation, on les a quasiment pas jouées, quoi. Donc il y a quelque chose qui est assez étonnant. Et moi, quand j'ai interrogé les tenants du jazz manouche des années 80, et je leur disais que pourquoi ils ne reprenaient pas les compositions de Django pendant la période d'occupation, ben ils disaient parce que ça ne correspond pas au jazz manouche, et ils avaient raison. C'est plus ça, Django est ailleurs, comme d'habitude.
1948 est donc l'année de reprise de la vie jazzistique en France, avec la visite de Gillespie, mais aussi celle de Louis Armstrong. Et à la fin de l'année, le trompettiste Bill Coleman, qui vivait à Paris avant la guerre, revient s'y établir définitivement. À Paris, justement, eh bien le centre névralgique du jazz se déplace.
Ici, monsieur, dame, à Saint-Germain-des-Prés, tout le monde danse le vrai bebop. Une, deux, trois, hop, on se télescope, ça devient un match de catch.
Désormais, les jeunes amateurs se réunissent dans les caves de Saint-Germain-des-Prés, au L'Orienté ou au Tabou.
Nous sommes là pour ça.
Qu'ils soient pour le bebop ou amoureux d'un jazz plus traditionnel, on y croise ceux qui vont écrire l'histoire de cette musique dans les années 50. Claude Luther, Michel de Villers, Henri Renaud et bien sûr...
Voici l'animateur du lieu, l'âme damnée des lanceurs de mode, le romancier scandaleux de J'irai cracher sur vos tombes, j'ai nommé M. Boris Vian.
Boris Vian, c'est un peu le grand frère de cette jeune génération. Lui qui avait émergé durant l'occupation fait office de passerelle entre les plus jeunes et leurs aînés. Dès 1948, il ne reste déjà plus grand-chose de ce qui faisait le jazz sous l'occupation. Ce qui ne change pas en revanche, c'est que le jazz demeure une musique de jeunes issus de milieux aisés. Mais rapidement, les adeptes de Saint-Germain-des-Prés commencent à écrire une nouvelle page de l'histoire du jazz français. Le jazz en France sous l'occupation. Une série de Florian Royer avec Sophie Pichon à la réalisation, Éric Boisset à la prise de son et au mixage. Merci à Élise Dubost, Louis-Valentin Lopez et Sophia Anastasio, ainsi qu'aux documentalistes de l'INA. L'intégrale de la série est disponible en podcast sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France.
France Musique. France Musique.